Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. En ce dimanche 18 avril 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Une résistance afghane s'oppointe à l'horizon. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Une de ce journal, dans un message à l'occasion de la journée nationale de l'armée, le président iranien Hassan Rouhani a insisté sur le fait que l'armée et le CGRI connaissent professionnellement leur mission. Nouvelle phase des négociations entre l'Iran et les 4 puces 1 à Vienne. Et puis le terroriste à l'origine de l'acte de sabotage contre le site nucléaire de Natanz a été identifié, Interpol sollicité. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran célèbre ce dimanche sa journée de l'armée en organisant des défilés limités impliquant uniquement du matériel militaire en raison de la pandémie de coronavirus. L'événement de cette année se concentre principalement sur le défilé de véhicules militaires et la présentation d'armes de fabrication nationale dans certaines bases de l'armée à travers le pays. En raison du Covid-19, les autorités ont décidé d'annuler l'EPA de mars à Téhéran. Divers types de drones, de chars, de batteries anti-aériennes, de systèmes de missiles avancés, différents types de systèmes de guerre électronique ont été exposés. L'Iran a toujours soutenu que sa puissance militaire était à des fins défensives. Dans un message à l'occasion de la journée nationale de l'armée, le président Rouhani a insisté sur le fait que l'armée et le CGRI connaissent professionnellement leur mission, déclarant que la sécurité nationale de l'Iran dépend du maintien de son intégrité territoriale. Le président Rouhani a souligné: aujourd'hui, avec l'expérience de la guerre imposée et l'héritage de la sainte défense, les institutions militaires iraniennes, l'armée et le CGRI connaissent leurs missions et leurs responsabilités plus professionnellement que jamais. Le président Rouhani a déclaré dans son message, à l'occasion du 29 Farvardin, soit le 18 avril, journée nationale de l'armée, je cite: chaque nation est fière de sa puissante armée et chaque armée est fière de sa grande nation. Les nations restent sans défense, sans armée, et les armées sont sans défense, sans leur peuple, et des gouvernements sans ces deux facteurs restent sans capitaux. Et dans une telle situation, ils ne servent que de barrières infranchissables les uns pour les autres. Sans aucun doute, la légitimité des armées réside dans leur patriotisme et leur loyauté à la sécurité nationale, à l'ordre, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Mais la relation des armées aux nations est plus stratégique que la relation des armées au gouvernement. Les gouvernements ont besoin des nations pour rester au pouvoir. Mais lorsqu'une nation n'est pas satisfaite d'un gouvernement et se détourne, ce sont les armées qui doivent choisir entre les nations et les gouvernements. Les armées possèdent des armes, mais leurs armes visent les ennemis des nations, pas les nations. Les armées font bien sûr partie administrativement des gouvernements et doivent donc obéir au gouvernement par la loi. C'est un principe démocratique, le soldat obéit au commandant. Mais il est également clair que les armées doivent soutenir un gouvernement qui n'a pas trahi son peuple, ajoutait le président Rouhani. Il y a 43 ans, lorsque la nation iranienne s'est détournée de la monarchie et a fait une révolution contre la dictature, le régime Pahlavi s'est tourné vers l'armée dans une illusion pour sa survie et lui a demandé un coup d'État contre la révolution, autrement dit contre la nation. Mais l'armée a fait son choix final et s'est rangée du côté de la nation, car l'armée en Iran fait finalement partie de l'océan de la nation, d'où la différence entre l'armée iranienne et les autres armées dans la région, a conclu le chef du gouvernement iranien. Les négociations entre l'Iran et les 4+1 sur le PGAC et l'accord nucléaire se poursuivent à Vienne aujourd'hui sous différents formats et niveaux et les groupes d'experts continuent de débattre des deux sujets de la levée des sanctions et des questions nucléaires. Le 17 avril, en plus de la 18e réunion de la commission mixte GCPOA, des réunions bilatérales et multilatérales ont eu lieu entre la délégation iranienne et les représentants des 5. Au cours des négociations, 3 réunions ont eu lieu entre Abbas Araghchi, chef de la délégation iranienne, et Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à 60% de pureté. L'agence a déclaré dans un communiqué que 2 cascades de centrifugeuses sur le site nucléaire de Natanz ont commencé le processus d'enrichissement à 60%. L'Iran a lancé le processus mercredi, affirmant qu'un enrichissement à 20% de pureté était également en cours sur le site. Cette décision fait suite à un acte de sabotage la semaine dernière contre l'installation de Natanz, qualifiée par Téhéran de terrorisme nucléaire. Le négociateur en chef de l'Iran à Vienne, Abbas Araghchi, a déclaré que la mesure était conforme aux engagements de son pays au titre de l'accord nucléaire de 2015. Enfin, le terroriste impliquant dans l'acte de sabotage visant le site nucléaire de Natanz a été identifié, Interpol sollicité. Les forces ministères iraniens du renseignement ont identifié l'auteur de l'incident qui a eu lieu dimanche dernier dans une partie du réseau de distribution d'électricité de l'installation de Shahid Ahmadi Roshan à Natanz. Selon la source, un certain Reza Karimi, accusé de sabotage à Natanz, qui s'est enfui à l'étranger, a été identifié comme l'auteur de l'incident de Natanz. Le dimanche 11 avril, dans la matinée, la nouvelle d'une opération de sabotage dans le complexe d'enrichissement de Natanz a été publiée. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Afghanistan, de quoi fuient les États-Unis? Biden admet sa défaite et lève les drapeaux de la reddition en Afghanistan. Comment le peuple afghan a-t-il gagné contre l'Amérique dans sa plus longue guerre, s'interroge Rayal Yaoum. Le rédacteur en chef de Rayal Yaoum, Abdel Bari Atwan, a écrit dans un article que le président américain a mis fin à 20 ans de guerre en Afghanistan et a décidé de retirer toutes ses forces avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre et admettre sa défaite dans la guerre. Enfin, après 20 ans de guerre en Afghanistan, le président américain Joe Biden a décidé de hisser les drapeaux blancs de la reddition teintés par le sang de plus de 2400 soldats morts et 21 000 blessés et de retirer toutes les forces de son pays, à savoir 3500 soldats, avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, de reconnaître officiellement la défaite, souligne Atwan. Selon le journal en langue arabe, ce grand acquis, qui n'est pas moins important que la défaite de l'Amérique au Vietnam, n'aurait pas été possible sans la patience des Afghans et leur résistance continue à l'occupation américaine, le soutien des voisins, en particulier du Pakistan, à leur fournir des armes et de l'argent. La guerre en Afghanistan, qui a été la plus longue guerre des États-Unis et qui a coûté aux contribuables américains plus de 2 000 milliards de dollars, nous rappelle le retrait des Américains du Sud-Vietnam pour s'échapper et l'entrée des forces Viet Cong dans la capitale Saigon, soulevant le signe de la victoire et ses drapeaux. Et nous ne sommes pas exclus de la répétition de la même scène après une autre retrait, le retrait des forces de l'OTAN, y compris les forces américaines, en septembre prochain, l'entrée des forces talibans dans la capitale Kaboul et l'annonce de la création de l'émirat islamique d'Afghanistan, comme le confirment la plupart des indicateurs, sinon tous, précise l'article. La phrase la plus vraie que Biden a prononcée dans son discours de mercredi soir est celle dans laquelle il a déclaré « Je suis le quatrième président américain à vivre cette guerre et je ne la céderai pas au cinquième président qui recevra le pouvoir après moi. » Mais il n'a pas dit qu'il avait réalisé ce que les présidents précédents n'avaient pas compris, à savoir l'impossibilité de conquérir la volonté des peuples, de poursuivre leurs occupations par la force d'avions, de missiles et de mercenaires, de commettre des massacres contre des Afghans innocents, peut-on lire toujours dans l'article d'Atvan. Ce qui est certain, c'est que l'achèvement du retrait américain à l'OTAN en septembre prochain créera un vide qui sera comblé par une guerre civile sanglante, alors que le gouvernement du président Ashraf Ghani tentera de lutter pour survivre au pouvoir en s'appuyant sur 300 000 Afghans et soldats entraînés et armés par l'OTAN au cours des 20 dernières années. Une guerre qui ne se prolongera peut-être pas et les forces talibanes, qui contrôlent pratiquement 70% du territoire afghan, entreront dans la capitale Kaboul, comme elles y sont rentrées, pour la première fois en automne 1996, en levant leur drapeau sur le palais présidentiel, nous rappelle Atwan. L'arrogance américaine a reçu un coup de poing fatal en Afghanistan, tout comme des coups de poing similaires en Irak, en Syrie et au Yémen, et bientôt en Palestine occupée. Une nouvelle mondialisation qui renversera Washington et son dollar du trône du monde. Raya Liam souligne ensuite que l'Afghanistan et le Yémen sont deux pays faciles à occuper, mais il est impossible d'y rester et il n'y a pas moyen de s'en sortir qu'avec une défaite humiliante, non pas à cause de leur difficile nature géographique montagneuse, mais aussi en raison de la patience de leur peuple et de la forte volonté de résistance, d'adhésion à la dignité et à la fierté des âmes. Et nous vous renvoyons aux livres d'histoire et aux échecs des Britanniques et des Ottomans dans les vallées et les montagnes des deux pays. D'après Abdel Bari Atvan, l'Amérique a vaincu les Russes en Afghanistan en recrutant des extrémistes et a pris sa revanche sur sa défaite au Vietnam et par cela il a frappé le plus gros clou dans le cercueil de l'Empire soviétique et tente de répéter le même scénario en Chine maintenant. Mais il ne réussira pas, car le monde a changé et l'ennemi n'est plus l'ancien ennemi et les outils américains sont vieux, rouillés et inefficaces. Nous espérons que certains Arabes apprendront que le prix de la résistance est beaucoup moins cher que celui de la reddition à l'Amérique et à ses complots. Le temps des défaites en Syrie des États-Unis a commencé. Biden supplie le président Vladimir Poutine de le rencontrer, retirant ses navires de guerre de la mer Noire, offrant à l'Iran des concessions inimaginables, dont les pourparlers de Vienne, conclut l'article. Vous pouvez trouver cet article sur notre site french.presstv.com. Merci de votre attention et de votre fidélité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait évoquer cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Mardi à Téhéran, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a rencontré tout d'abord son homologue iranien Mohammad Javad Zarif et ensuite il a été reçu toujours à Téhéran par le président iranien Hassan Rouhani. Sergueï Lavrov était venu à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités iraniennes des questions d'intérêt commun, de la coopération bilatérale, du plan d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, et des évolutions régionales, très particulièrement en ce qui concerne la Syrie et de l'Afghanistan, également des évolutions internationales. Et cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères est intervenue à un moment où l'Iran a signé tout récemment un plan de coopération de 25 ans avec la Chine. Et à Téhéran, Sergueï Lavrov a dénoncé les sanctions européenne contre l'Iran. À Téhéran également, Sergueï Lavrov a dénoncé une fois de plus les sanctions injustes imposées par les États-Unis contre l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Fabrice Beurre. Monsieur Beurre, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne.
C'est un plaisir partagé. J'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Elie Atem. Maître Atem, bonjour, merci et beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour également à Monsieur Beurre et merci de votre invitation.
Je vous en prie, Maître Atem, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Comme première question, quelle est en fait la portée, l'importance de cette visite à Téhéran et du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov?
Cette visite renforce l'axe, je dirais, entre la Russie, l'Iran, la Chine. Il faut dire, comme je l'ai toujours répété et dit, il s'agit de l'axe du nouveau monde libre qui s'oppose au monde hégémonique qui était légué par les États-Unis ou monopolisé, je dirais, par les États-Unis. Parce que quand on parle de l'Union européenne et des sanctions qui ont été prises, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par l'Union européenne, il s'agit en fait des pions qui sont à la solde des États-Unis et qui essaye d'avoir une majorité au sein de cette institution pour reprendre, si vous voulez, toutes les décisions prises par les États-Unis. Donc, revenant à votre question, cette visite, elle met en exergue ce nouvel axe, ou cette nouvelle, je dirais, bipolarisation qui se dessine de plus en plus dans le monde, et comme je l'ai toujours répété, avec ces deux mondes, le monde libre, le nouveau monde libre d'une part, et le monde hégémonique de l'autre part. Ce monde hégémonique édicte des sanctions, qui distribue des sanctions à des États ou des entités qui, juridiquement, ne doivent pas recevoir ces sanctions, et il laisse totalement libre tous ceux qui constituent ou qui créent un déséquilibre, une déstabilisation au niveau régional, au niveau international, et qui font des actes qui sont juridiquement, internationalement illicites, qui, par conséquent, sont éligibles à ces sanctions. Et je pense, par exemple, à la Turquie. La Turquie qui, comme tout le monde le sait, est le principal allié des États-Unis au sein de l'OTAN, la Turquie qui a menacé la sécurité dans l'est de la Méditerranée, mais également dans ses interventions en Libye, et malgré tout, les États-Unis sont passés outre, n'ont jamais réagi à ces exactions turques. Mais en revanche, ils distribuent des sanctions contre tous les autres États, contre tous les autres pays qui ne sont pas dans sa lignée politique, ce qui démontre qu'il y a une hégémonie américaine sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Russie Et le président Poutine, qui a envoyé donc son ministre des Affaires étrangères, se lance de nouveau dans cette création de ce nouveau monde libre, qui est celui qui veut défendre l'indépendance et la souveraineté des États.
Monsieur Beur, votre analyse, s'il vous plaît, d'autant plus que, comme je viens de le dire tout à l'heure, Maître Atem également vient d'y faire allusion, à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé les sanctions européennes qui pourraient saper ces discussions en cours à Vienne entre l'Iran et le groupe 5 plus 1. Sergei Lavrov a fait cette déclaration à Téhéran à un moment où l'Iran est passé à l'enrichissement de 60% pour réagir à cet acte qualifié de terrorisme nucléaire qui a visé le site d'installation nucléaire iranienne de Natanz, M. Beur.
Effectivement, on a plusieurs éléments aujourd'hui qui s'affichent. Alors, dans un premier temps, rappelons rapidement le dégagement américain du retrait américain de l'accord sur le nucléaire, sanctions imposées à votre pays, chantage fait à votre pays pour que, en fait, vous baissiez totalement les armes, votre défense, et on sait très bien ce qui se passe lorsqu'on se désarme. On voit bien tous les pays de la région ce qu'il en est devenu. Et nous avons les Européens qui, malgré, dans un premier temps, froncer les sourcils, se sont totalement alignés, mais ça, ce n'est pas une nouveauté pour qui connaît la réalité de la caste dirigeante au niveau européen et dans tous les pays qui lui sont affiliés. Et aujourd'hui, nous avons effectivement, avec la nouvelle administration Biden, une soi-disant volonté de retourner aux négociations, mais avec en fait la même argumentation, à savoir on va renégocier un accord, et donc vous devez également accepter nos conditions. Les sanctions imposées par la présente administration n'ont pas été levées, et aujourd'hui on voit effectivement qu'il faut les appeler pour ce qu'ils sont en réalité, excusez-moi cette réalité, mais les tout-tout américains, européens des Américains, aujourd'hui, disent qu'ils sont pourtant les garants de cet accord, donc valident des sanctions contre votre pays. Ce n'est pas évidemment une volonté de dialogue, mais bien un alignement total sur Washington. Et d'ailleurs, en particulier la France, avec la nouvelle administration, s'est totalement réalignée évidemment sur les États-Unis avec par rapport à toute friction qu'il pouvait y avoir auparavant, mais c'était un problème d'ego. Aujourd'hui, ils sont totalement réalignés puisque Macron est évidemment a été placé ici par le parti américain. Et donc aujourd'hui, on a effectivement cet Occident. Pour conclure sur votre question, cet Occident qui déclare vouloir négocier pour appliquer l'accord, mais qui en fait en est également sorti, on va dire, dans les faits, puisqu'il applique une politique américaine de pression et de sanctions, alors que le fautif, effectivement, dans l'histoire, c'est bien Washington et non pas l'Iran qui a appliqué au maximum qu'il pouvait le faire, on va dire, à moins d'être totalement naïf, l'accord dont il serait le seul, effectivement, à devoir avoir des obligations. Et la présence hier de Sergei Lavrov, qui a rencontré donc le président du Parlement iranien, et au même moment, effectivement, où il y a eu cette attaque terroriste israélienne, une parmi les nombreuses, et la réaction donc iranienne, effectivement, la multiple réaction iranienne, d'ailleurs dans différents domaines, démontre effectivement que nous avons bien ce bloc eurasiatique aujourd'hui chacun, malgré bien qu'il puisse y avoir des déclarations diplomatiques des fois peut-être pas aussi franches ou qui restent diplomatiques, puisqu'elles sont diplomatiques, on voit bien que sur le terrain et dans la confrontation géopolitique, nous avons un bloc eurasiatique, Pékin, Moscou et évidemment Téhéran, et en particulier Moscou et Téhéran, sur lequel je pense qu'il y a un accord tacite dans beaucoup de domaines, Moscou ayant compris et Téhéran ayant compris effectivement le sérieux l'un de l'autre dans le cadre de leur coopération antiterroriste en Syrie. Donc on voit bien effectivement, comme cela a été indiqué précédemment, et je conclurai là-dessus, que nous avons bien deux camps, un camp occidental qui est hypocrite, qui impose ses sanctions, en fait ses ultimatums, ses blocus, et un camp qui en fait, eurasiatique, qui cherche, on va dire, des accords, simplement, on va dire, des accords normaux entre États souverains. Mais évidemment, le monde occidental ne peut vouloir des rapports d'égo à égo, puisqu'ils ont toujours eu l'habitude, évidemment, des rapports, on va dire, de soumission. Et l'Union européenne connaît bien cela, puisqu'elle se soumet totalement à Washington, en particulier dans le cadre de cet accord nucléaire.
Merci beaucoup, M. Beur. Vous l'avez dit, Sergei Lavrov a rencontré également à Téhéran le président du Parlement iranien, M. Qalibov. Merci infiniment de faire cette précision. Maître Atem, vous l'avez dit que voilà, nous assistons à l'émergence d'un nouveau monde de libre dont l'objectif et la mission est de faire face à ce monde, si vous voulez, hégémonique. Peut-on interpréter dans ce sens, Maître Atem, la signature de ce récent accord de coopération de 25 ans entre l'Iran et la Chine, cette visite à Téhéran du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a insisté une fois de plus sur la nécessité de doper, de renforcer la coopération Téhéran-Moscou, et également cette fermeté et cette réaction ferme, M. Atem, de Téhéran à cet acte de sabotage qui a visé le site d'installation nucléaire de Natanz, un acte qui a été qualifié de terrorisme nucléaire, M. Atem.
Effectivement, mais vous le savez, ce n'est pas le seul ou le premier acte terroriste que les États-Unis ou leur principal allié dans la région, Israël, commettent. Il ne faut pas oublier l'assassinat du général Soleimani. Il ne faut pas oublier non plus l'assassinat par ce qui a été dit éventuellement du scientifique Fakhrizadeh par également soit les services américains ou bien les services israéliens ou bien les deux. Il y a une série d'actes qui démontrent que ce sont les États-Unis qui commettent des actes internationalement illicites. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit un Iran qui est lui-même un État, qui est lui-même victime de ces exactions, de ces actes qui sont internationalement illicites et qui n'use pas de son droit de riposte, malgré le silence des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car tous ces actes-là se sont qualifiés d'actes d'agression auxquels les Nations Unies doivent prendre des mesures contre les auteurs. Or, il n'y a jamais eu ni d'investigation, ni de recherche, donc des criminels, ni de condamnation des responsables, par conséquent, de ces actes-là. Et donc c'est pour ça que je parle d'une hégémonie. Et c'est pour ça que je parle de l'autre côté, toujours, je l'ai toujours dit depuis plusieurs années, en me référant notamment aux idées d'Alexandre Dugin, qui est l'un des gens, des philosophes politiques les plus proches et influents sur le président Poutine, en parlant de ce pont qui doit être fait entre le monde européen, ou ce qu'on appelle le vieux continent, et puis le nouveau monde donc, qui s'ouvre à l'Est, c'est-à-dire avec la Chine. Et j'ai toujours soutenu cette idée qu'il y a une émergence d'un axe qui est celui qui va aller de Moscou à Téhéran et puis à la Chine, qui tous les trois, ont pour objectif de rétablir le droit international et de faire respecter cette primauté du droit international sur l'arbitraire politique, et de ce fait contrecarrer l'autre axe qui fait des actes qui sont totalement illicites et qui violent le droit international public. Et cet axe du bien, c'est-à-dire l'axe sino-russo-iranien, a pour objectif de contrecarrer cette jungle, si vous voulez, et cette volonté de créer le chaos sur la scène internationale.
Monsieur Beur, à un moment où à Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dénonçait des sanctions européennes contre l'Iran et y voyait une tentative de saper de ces négociations en cours à Vienne entre l'Iran et le D4 plus 1. Et à un moment où Sergei Lavrov dénonçait les États-Unis, surtout ces sanctions américaines contre l'Iran, un responsable de la Douma russe à Moscou a réclamé l'ouverture d'une enquête internationale. Pourquoi l'ouverture d'une enquête internationale ? Il a en fait précisé que si l'implication du régime israélien dans cet acte de terroriste contre le site d'installation nucléaire de Natanz se précise, il faut ouvrir une enquête internationale. Ça montre, M. Beur, la volonté, si vous voulez, de Téhéran et de Moscou de ne pas en fait laisser les autres imposer leur politique. Ça montre également cette fermeté, cette volonté de Téhéran de vouloir faire valoir ses droits, très particulièrement dans le domaine nucléaire, M. Beur, n'est-ce pas?
Oui, bien évidemment, on assiste aujourd'hui à cette, cette opposition, oui, en fait, entre ce monde occidental qui fait fi du droit, qui fait fi des accords signés, qui fait fi des engagements, et qui utilise pour cacher cela, effectivement, la morale, le moralisme, la moraline pour caché derrière un lexique de propagande son attitude effectivement impérialiste. Et donc nous avons aujourd'hui dans les pays, pour les États-Unis parlent de l'ancien monde, mais qui est en fait le monde normal, à savoir des États souverains qui veulent travailler dans l'établissement effectivement de la paix, mais avec des règles. Les règles, c'est le droit international, et dans le cas précis, lorsqu'il y a une attaque terroriste, sous-entendu, et même pas sous-entendu, dans la presse israélienne, ça a été même applaudi, donc il faut une enquête internationale, puisqu'ils sont aussi prompts à vouloir une enquête internationale à la moindre provocation des terroristes en Syrie, donc ils ne peuvent être contre une enquête internationale qui concerne en plus des installations nucléaires, mais vraiment quand même à un niveau certain de dangerosité qui ne peut être ne pas être prise en compte. Mais évidemment, on est aujourd'hui dans une opposition avec et vous ne trouverez occidentaux hier sur cela. Ça passe à la trappe, on va dire. On ne va pas parler plus que cela. On ne va pas se dire, mais qui c'est qui a fait ça ? On parle de cet acte terroriste et on passe évidemment à autre chose pour mieux noyer le poisson, comme on dit. Mais il est évident qu'aujourd'hui, d'un point de vue du droit, simplement de la légitimité, de la légalité, l'Iran, dans le cas précis, est un pays agressé depuis des années par des sanctions et un blocus américain qui est totalement illégal et soumis, on va dire, à l'avilissement et au manque de courage des Européens sur cette question. Et on voit bien avec cette reconfiguration géopolitique à laquelle nous assistons, où le monde se dirige de plus en plus vers l'Eurasie, en particulier vers l'Asie du Sud-Est, ce nouveau centre mondial, on voit bien évidemment qu'on essaye de retrouver un équilibre, et que cet équilibre entre les puissances eurasiatiques, ce sont des accords entre États normaux, à savoir des accords qui respectent le droit, les engagements qui ont été signés. Mais ça, et pour conclure, c'est évidemment quelque chose que l'Occident ne peut vouloir accepter, parce que ça sous-entendrait, je le répète encore, parler d'égal à égal, et dans leur logiciel, c'est impossible, puisqu'ils sont le camp du bien, évidemment, ce sont les pays développés, on en rigole lorsqu'on verra les vrais chiffres dans quelques temps. Voilà la situation dans laquelle on est toujours dans ce basculement géopolitique où l'Occident anciennement dominateur, aujourd'hui, a bien du mal à faire perdurer celle-ci, mais continue dans ses vieilles méthodes à la suite, on va dire, des États-Unis, de blocus et de sanctions, puisque c'est aujourd'hui la seule politique qu'ils peuvent mener, puisque d'un point de vue militaire, le bloc eurasiatique, que ce soit Pékin, que ce soit Moscou, que ce soit Téhéran, ne sont pas des cibles si faciles, évidemment, à détruire. Donc nous sommes dans une situation où nous allons répéter en boucle, effectivement, ces provocations, ces sanctions, et je pense, et moi je l'ai toujours dit, qu'il faut construire des institutions alternatives aux ces institutions dites internationales qui sont en fait aux mains de l'Occident, afin, s'ils ne veulent pas vivre avec nous, eh ben, vivons sans eux d'une manière paisible et surtout en respectant des règles, afin que nos peuples puissent vivre tout simplement en harmonie et suivre leur propre chemin. C'est vraiment cette question de souveraineté des États et de la paix dans le monde dont il est question, mais qu'attendre de la part de l'Occident, dont, lorsqu'on regarde, l'OTAN et les États-Unis sont responsables de la plupart des guerres que nous avons, et en particulier au Proche-Orient. C'est bien ça dont il s'agit, c'est la paix ou la barbarie.
Maître Hatem, une dernière question, nous avons deux minutes de devant. Nous, Maître Hatem, peut-on dire que la réussite, cette visite en fait de Sergueï Lavrov, on est la preuve, la Russie en fait envisage de compter sur l'Iran pour mener sa politique moyen-orientale et de faire face aux États-Unis.
Mais bien entendu, parce qu'il faut dire, c'est qu'à l'instar de l'Iran, la Russie est également victime de cette hégémonie américaine. Les sanctions qui sont prises à l'encontre de la Russie ne sont pas justifiées par des actes illicites. Et la même chose en ce qui concerne l'Iran. C'est-à-dire ces deux grandes puissances sont victimes, si vous voulez, de nouveaux actes d'agression qui sont les actes d'agression, si vous voulez, qualifiés comme des actes de guerre. Il y a une guerre qui se fait d'un côté et non pas de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de riposte de la part des victimes, autrement dit de la Russie ou bien de l'Iran, à l'encontre des États-Unis. Troisièmement, en ce qui concerne la Chine, il y a une autre guerre que les États-Unis ont entamée à l'encontre donc, de cette grande puissance. C'est une guerre économique. Cette guerre économique, on la voit donc sur le terrain, qui de temps en temps se déclenche avec des interdictions de certains produits. D'où l'importance de ce renforcement de ce nouvel axe qui s'oppose à l'axe du mal qui est prôné par les États-Unis. Yes. Et dernièrement, ça prouve qu'il y a une prise de conscience de la part de ces trois nouvelles puissances qui ont émergé depuis la fin de la bipolarisation, en vue de reconstruire un monde de paix,
merci,
de prospérité et de respect de la souveraineté.
Maître Eli Hatem, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission et depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Fabrice Eber, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Niger, suspension d'une ONG française soupçonnée de lien avec une organisation terroriste. Les autorités de la région de Diffa dans l'est du Niger
ont ordonné la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités de l'ONG française Acted, soupçonnée de connexions douteuses et subversives au profit d'une organisation terroriste, a-t-on appris mercredi de sources officielles. Dans une correspondance adressée au coordinateur de la dite ONG, le gouverneur de la région de Diffa, Issa Lemine, lui a notamment reproché de mener des activités qui sont en contradiction avec ses statuts et le partenariat qui la lie à l'État du Niger. Il a demandé par conséquent la suspension sine die de ses activités en attendant de clarifier la situation par une enquête déjà en cours. M. Lemine note qu'il lui a été rapporté à plusieurs reprises et par des sources vérifiées que l'ONG entretient des connexions douteuses et subversives au profit d'une organisation terroriste. En outre, dernier, 7 membres d'ACTED, 6 Français et 1 des Nigériens, avaient été tués dans une attaque terroriste revendiquée par le groupe terroriste Daesh. Le Niger subit depuis quelques années des attaques perpétrées notamment par le groupe de terroristes Boko Haram dans la région de Diffa et dans sa partie occidentale par des groupes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres mouvements basés au Mali. Bénin, la Cour constitutionnelle confirme les résultats du scrutin. La Cour constitutionnelle du Bénin a confirmé jeudi la réélection dès le premier tour de Patrice Talon, précédemment annoncé par la Commission électorale, et a donné 5 jours à l'opposition pour déposer un éventuel recours. Le scrutin du 11 avril 2021 est régulier, sincère et transparent, a déclaré jeudi à Cotonou le président de la Cour constitutionnelle Joseph Joenienou. Le duo Patrice Talon et Mariam Talata a remporté 1 982 534 voix et a ainsi obtenu la majorité absolue de suffrages pour être élu au premier tour, a-t-il poursuivi, confirmant ainsi l'élection du président sortant Patrice Talon. Talon a été élu président du Bénin en 2016. Au début de cette année, il a officiellement annoncé de son ambition de briguer un second mandat de 5 ans. En vertu des dispositions du nouveau code électoral en vigueur, le président de la République est élu en duo avec un vice-président au suffrage universel direct et pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le premier tour de la présidentielle du Mali est prévu pour le 27 février 2022. Le premier tour de la prochaine élection présidentielle du Mali est prévu pour le 27 février 2022, a annoncé jeudi le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, lors d'un point de presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement de transition. Selon M. Maïga, le processus électoral va débuter le 31 octobre prochain avec le scrutin référendaire. Les conseillers des collectivités vont être élus le 26 décembre 2021. Le premier tour de la présidentielle, couplé à celui des législatives, est donc prévu pour le 27 février 2022. Les second tours des scrutins auront lieu respectivement 13 mars présidentiel et le 20 mars législatif, a ajouté le ministre. Pour l'élection du président de la République et des députés, les dates proposées s'inscrivent dans le cadre du respect strict de la durée de la transition, a assuré M. Maïga. Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. 34 ans après les faits, le procès des assassinats de Thomas Sankara semble avoir atteint un tournant décisif. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a été mis en accusation par la justice pour son implication dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. La décision a été prononcée ce mardi 13 avril 2021 par le tribunal militaire de Ouagadougou. 34 ans après le coup d'État qui a renversé le capitaine Thomas Sankara, considéré comme une véritable icône par la jeunesse africaine, on assiste peut-être à un tournant décisif dans le processus judiciaire destiné à établir les responsabilités dans les événements liés à son assassinat. 13 autres personnes sont poursuivies avec Blaise Compaoré pour l'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. Zimbabwe, le nucléaire envisagé avec la Russie comme alternative pour pallier le déficit énergétique. Au cours des dernières années, les ambitions nucléaires des pays africains se sont renforcées. Le Zimbabwe, par exemple, s'est associé à la Russie pour développer la filière atomique. Un accord de financement d'une centrale nucléaire vient d'être signé entre le Zimbabwe et la Russie. Dans ce nouvel accord, il est convenu que les Russes assisteront le Zimbabwe dans la mise en place d'une centrale nucléaire pour fournir des sources d'énergie alternatives et remédier aux pénuries d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Le protocole d'accord vise à faciliter une coopération de haut niveau entre les deux pays dans l'utilisation de l'énergie nucléaire en jetant les bases de l'exécution des domaines de coopération. La coopération prévue dans l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques fournira des sources d'énergie alternatives dont le Zimbabwe a besoin, a déclaré la ministre zimbabwéenne de l'information. L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait croître de 3,4% en 2021, selon le FMI. L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait décroître de 3,4% en 2021 après la contraction de 1,9% observée en 2020, a indiqué jeudi le Fonds monétaire international FMI. Selon le dernier rapport intitulé « Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne », la croissance de la région sera soutenue par l'amélioration des exportations et des prix des produits de base, ainsi que par une reprise de la consommation des investissements privés. Les conclusions montrent que la production par habitant dans la région ne devrait pas revenir au niveau de 2019 avant 2022 et que dans de nombreux pays, les revenus par habitant ne retrouveront pas les niveaux d'avant la crise, avant 2025. Abebo Aumbro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, a déclaré que la région continuait de se débattre avec une crise sanitaire et économique sans précédent. Depuis notre dernière évaluation des perspectives économiques régionales en octobre 2020, la région a été confrontée à une deuxième vague pandémique qui a dépassé l'ampleur et la vitesse de la première. Et de nombreux pays continuent de faire face à d'autres vagues ou s'y préparent de temps que l'accès aux vaccins reste limité, a-t-il ajouté. ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.